L'an 2006 s'est achevé, l'heure des bilans mais aussi des promesses pour l'année à venir. Ces 12 derniers mois ont été marqués par la montée en puissance de l'Asie dans l'économie mondiale. Une montée en puissance que l'Église, de par sa mission, regarde avec un grand intérêt pastoral. La mission en Asie, c'est le grand défi des missions étrangères de Paris, le plus ancien des instituts missionnaires. Ils y poursuivent depuis plus de 350 ans leur mission d'évangélisation et de fondation de l'Église sur le continent. Jadis appelé séminaire des missions impossibles à cause de ses 170 martyrs, les MEP continuent de préparer et d'envoyer des jeunes qui souhaitent partir en mission et relever les défis posés par les deux tiers de la population mondiale qui vivent en Asie. La communauté catholique n'y représente que 3% de la population totale. Le père Georges Collomb, vicaire général des missions étrangères de Paris, a été 10 ans missionnaire en Chine continentale. En ces débuts d'année 2007, il commence par nous rappeler quelques temps forts de leur mission.
D'abord, nous avons eu la joie, si vous voulez, d'ordonner des jeunes prêtres. Nous aurons 5 départs cette année. 3 prêtres des missions étrangères de Paris, qui vont 2 à Taïwan pour prendre le mandarin, et pour plus tard peut-être aller sur le continent, on verra bien. Un troisième qui restera à Taïwan, et puis 2 autres qui vont au Cambodge. Parmi ces 5 prêtres, donc 3 sont des prêtres MEP, 2 sont des prêtres associés aux missions étrangères. Autre point important, c'est le départ au cours de l'année d'à peu près 140 jeunes Français qui sont partis comme volontaires avec nous dans les pays d'Asie où nous sommes et dans certains même où nous ne sommes pas. Ce sont des volontaires donc qui partent en église avec nous pour témoigner de leur foi et pour vivre un temps fort quoi au service des enfants de la rue, ou pour enseigner le français, pour faire du développement rural, enfin toutes sortes d'activités au service des missions. Alors, on y continue à être appelé par les églises locales, même l'église de Corée, où il y a énormément de vocations. Mais les évêques nous demandent des missionnaires, parce qu'ils prouvent chez nos confrères un zèle, si vous voulez, apostolique, qui fait que on est un petit peu des aiguillons, en quelque sorte, missionnaires, si j'ose dire, dans certaines églises. Hein, parce qu'on va dans des coins, peut-être, où l'église n'est pas forcément présente.
Oui, alors, beaucoup de pays dont vous parlez souffrent de barrières et de divisions de toutes sortes. Est-ce que vous sentez quand même des signes d'ouverture ?
Le Vietnam évolue beaucoup plus rapidement, me semble-t-il, que la Chine. D'abord, l'église du Vietnam n'est pas divisée comme l'église de Chine, ce qui s'explique par des raisons historiques. Elle est beaucoup plus forte, 8 ou 9% de catholiques, c'est plus important que 0,5%. Et puis, les évêques sont unis entre eux. Et puis, alors, le gouvernement, ces derniers temps, semble accorder beaucoup plus de liberté à l'église. Hein. Par exemple, vous avez les fameux quotas qui régissent l'entrée dans les séminaires du Vietnam. Et bien, dans certains diocèses, ils ont tendance à être supprimés. De même pour les nominations. Autrefois, l'évêque devait demander la permission du bureau des affaires religieuses locales pour nommer tel père, curé de telle paroisse. Maintenant, il l'informe après coup, mais il ne lui demande plus la permission. Dans d'autres pays, bon, les pays où il y a plus de liberté pour l'Église, bon, comme au Cambodge, on nous fiche la paix. À Taïwan, on nous fiche la paix. À Hong Kong, bon, ben, c'est sûr qu'il y a une tentative un peu de reprise des responsabilités par le pouvoir central de Pékin. Mais enfin, en ce qui concerne les missionnaires étrangers, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu de menaces. Dans de nombreux pays, quand même, la situation est correcte. Mais là où il y a une situation d'incertitude, prenez par exemple la Malaisie, prenez l'Indonésie, on ne peut pas envoyer de missionnaires officiellement. L'Inde, c'est un peu la même chose. Le Laos, c'est la même chose. De nombreux pays d'Asie se caractérisent par une situation où c'est un petit peu un trompe-l'œil parce qu'il y a une grande croissance économique et en même temps, on voit que lorsqu'on est touriste, on voyage très librement. On voit même une certaine évolution du niveau de vie de la population locale. Mais en même temps, c'est assez contradictoire. On voit qu'en ce qui concerne la liberté religieuse, on en est toujours au même point. On n'évolue pas beaucoup. Je pense qu'il y a une pression de certains groupes fanatiques musulmans qui expliquent cela, vous voyez.
Et vous ne pensez pas que cette montée en puissance de l'Asie sur la scène mondiale au plan économique ne peut en même temps favoriser cette ouverture aux religieux dans certains pays, ne serait-ce que par simple souci d'image à l'extérieur ?
Vous savez, l'Asie et surtout la Chine a un grand pouvoir de séduction depuis des siècles. Hein. Et on a tendance un peu à idéaliser les progrès. Je ne pense pas, si vous voulez, que pour les gouvernements asiatiques, ce soit une question très importante. Bien sûr, ils savent très bien qu'ils doivent montrer patte blanche comme droit de l'homme, s'ils veulent faire partie de quelques organisations internationales, mais ils font le minimum. Mais en ce qui concerne l'Église, c'est la dernière de leurs préoccupations. Parce que le système, vous savez, actuel, le système confucéen, favorise beaucoup la croissance économique dans les pays d'Asie, enfin qui sont confucéens hein, au moins. Prenez la Chine, prenez la Corée, prenez le Vietnam. Ils n'ont pas besoin de nos modèles politiques. Ça ne les intéresse pas. Ils ont pris chez nous ce qui est intéressant, à savoir libéralisme économique. Mais ils ont un modèle, c'est le modèle confucéen. Et ça leur va très bien, vous savez. Alors je pense que S'il y a une exigence des citoyens pour plus de liberté, pour l'instant, vous savez, la question de la liberté religieuse, on ne peut pas dire que ça préoccupe beaucoup les Chinois.
Vous avez vous-même traversé, Père Colomb, plusieurs pays du continent cette année passée. Alors, quelles sont les églises locales qui vous ont le plus marqué par leur vitalité ?
Elles m'ont quand même toutes marquées, je dirais, parce que partout, même en Chine, vous voyez, il y a une grande vitalité quand même de l'église, ce qui est quand même heureux. Il y a quand même des gestes qui sont très forts. Prenez par exemple dans le diocèse de Shenzhen, dans le Hebei, en Chine. Eh bien, l'évêque officiel a reçu comme ça des coups de téléphone de plusieurs prêtres clandestins qui lui ont dit, écoutez, vous êtes nommé par le pape, on vous reconnaît, donc on quitte votre diocèse, il venait d'autre diocèse, hein, ces prêtres. On rentre chez nous et nos communautés sont en communion avec vous. Vous voyez, c'est un très joli geste. Malheureusement, c'est pas généralisé. C'est un très joli geste. Pourquoi ? Parce que l'évêque de Tientien est un évêque courageux, qui est reconnu par le gouvernement, mais qui est fidèle à Rome, qui est reconnu par Rome, et qui le montre. Il le montre par ses actes, il le montre par ses paroles, et les chrétiens s'en rendent compte. Mon voyage en Chine m'a permis quand même de le constater. J'ai vu des communautés priantes, des communautés fervantes, des jeunes qui pensent à donner leur vie au Seigneur, c'est quelque chose de beau. Mais je pourrais dire ça de d'autres pays, vous voyez, hein, c'est pas d'une manière générale l'Église. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, dans cette affaire-là, c'est que je constate en Chine notamment que les communautés protestantes grandissent beaucoup plus vite. Alors, c'est pas la compétition, hein, c'est pas les Jeux Olympiques de l'évangélisation, hein, mais il y a quand même, si vous voulez, je crois que ça donne nous interroger. Alors on dit oui, ils ont beaucoup d'argent, ou oui, ils distribuent la Bible dans la main droite, le dollar dans la main gauche. Et tout ça, ce sont des images un peu caricaturales. Mais j'aimerais bien qu'on s'interroge, nous, missionnaires, et puis l'Église locale, sur le pourquoi de cette croissance. Est-ce qu'il y a plus de ferveur, est-ce qu'il y a plus de soucis d'évangélisation du côté protestant que chez nous ? Ça doit nous interroger, en tout cas. On ne peut pas rester insensible à ce phénomène, vous voyez ?
L'Asie est une mosaïque de cultures très différentes entre elles, et l'Église catholique est amenée à affronter des défis pastoraux très divers d'un pays à l'autre, à travers le continent. Alors, quels sont aujourd'hui leurs défis communs ?
Moi, je crois qu'il y a le défi, évidemment, le défi de l'évangélisation, parce que prenez la Chine, représente 0,5% de la population. Prenez d'autres pays comme la Thaïlande, où c'est à peu près du même ordre. Le Japon, c'est du même ordre. Finalement, à part la Corée et le Vietnam, où on représente 7 ou 8 ou 9% ou 10% peut-être en Corée, partout ailleurs, ce sont des chiffres très très bas. Alors, ça n'empêche pas que comme l'Église de vivre, évidemment. Mais quand même, dans ces pays où la croissance économique est forte, où le poids politique de ces pays va devenir de plus en plus important, je crois qu'on ne peut pas rester insensible à ça et les bras croisés. Donc pour nous, c'est un défi. Alors, quels sont les obstacles à l'annonce de l'Évangile ? Je crois que c'est un défi permanent pour tout chrétien depuis des siècles. Et aujourd'hui, je crois que ça l'est encore plus. Alors, on constate d'ailleurs que les étudiants étrangers, notamment les étudiants chinois, par exemple, qui sont nombreux en Europe, hein, et aux États-Unis, se convertissent beaucoup plus facilement dans nos pays. Alors c'est quand même un révélateur, ça. Pourquoi ? Et bien parce qu'ils découvrent justement, malgré la laïcité qui peut être marquée de son empreinte dans nos cultures, ils découvrent des traditions chrétiennes. Ils découvrent une façon de vivre qui est marquée par l'Évangile. Là, il y a peut-être une recette pour nous, enfin une clé pour annoncer Jésus-Christ.
Alors pour finir, Père Colomb, si vous le voulez bien, un regard vers l'avenir. Quels sont les projets des missions étrangères de Paris pour les prochains mois ?
Notre grand projet, c'est pour 2008, nous allons fêter le 350e anniversaire du départ des premiers vicaires apostoliques qui ont fondé les missions étrangères. Alors là, nous mettons en œuvre beaucoup de choses, des conférences à Paris, des expositions, dans plusieurs diocèses de France, probablement une cinquantaine. Et nous aurons aussi des célébrations, des partages avec les chrétiens du lieu. Tous ces préparatifs, évidemment, nous occupent. Et pour 2007, eh bien, on continue sur notre lancée, évidemment. On va encore accueillir de nouveaux séminaristes. On va envoyer, grosso modo, le même nombre de volontaires, peut-être un peu plus, autour de 140, vous voyez. On va fêter, bien sûr, le 50e anniversaire de l'encyclique Fidei Donum, vous savez, qui permet auprès de diocésains de partir, et c'est très bien. Mais ça prouve qu'un institut missionnaire, comme le rappelle Jean-Paul II dans l'encyclique Venantoris Missio, a toujours sa place. Et non seulement il a sa place, mais il est indispensable.